France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, les soldats oubliés de la guerre de Corée. Entre 1950 et 1953, ce conflit est le premier et le plus violent des face-à-face entre les deux blocs, communistes et occidental. Cette première confrontation de la guerre froide fait craindre une apocalypse nucléaire. Et régulièrement, chaque camp rappelle qu'il dispose de l'arme atomique. Et régulièrement, les journaux recensent le nombre d'ogives à disposition de chacun. 2 millions de civils et autant de soldats ont été tués ou blessés en 3 ans, qu'ils soient coréens du Nord ou du Sud. Et le sol de Corée a été labouré par des milliers de tonnes d'obus et de bombes américaines, bien plus que pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se trouve que 3400 Français se sont engagés dans cette guerre. 300 y ont perdu la vie, 1300 sont rentrés blessés. C'est l'histoire de ce bataillon, aujourd'hui quasi effacé de nos mémoires, que nous allons vous raconter. Notre invité aujourd'hui, le lieutenant-colonel Yvan Cadeau, officier au SHD, le service historique de la défense, grâce à qui vous allez pouvoir entendre les témoignages inédits de soldats français. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire et rédaction en chef, Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation David Le Prince.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Je n'ai jamais rien vu de pareil. Quelle casse, et pas de la belle. Des morceaux de type que l'on reçoit ou qu'on le retrouve, des cervelles qui traînent sur le sol. Pour la première fois, j'ai aperçu des hommes courageux se traîner à genoux en demandant grâce. Cette lettre du lieutenant Claude Barrès à son père est écrite juste après le 7 octobre 1952. Le BF, le bataillon français de Corée, compte encore ses morts, 47, et ceux de l'ennemi, 2000. Pendant des heures, les soldats français ont repoussé l'assaut. Ils ont tenu ce que les cartes militaires désignent comme la côte 281 et ont vécu en enfer, oui, en enfer. Tout le secteur des Français disparaît sous des torrents de flammes et de fumée, écrit le journaliste Erwan Bergo. En 20 heures, il recevra 15 000 obus. L'orage qui s'abat d'une violence jamais encore atteinte. Les Chinois veulent niveler le terrain, ils veulent détruire, anéantir, écraser. En cet automne 52, cela fait 2 ans que le pays du matin calme ne mérite plus son surnom. 2 ans que le monde entier s'affronte sur le sol de Corée.
Depuis sa libération par les forces russes et américaines en 1945, la Corée, que seul un étroit bras de mer sépare du Japon, avait été coupée en 2 zones d'influence limitées par le 38e parallèle. Violemment opposé au gouvernement sudiste à tendance américaine, le gouvernement nord-coréen d'inspiration communiste, prétextant des attaques de postes frontières, donnait subitement ordre à ses troupes de marcher sur Séoul. Sur la demande du gouvernement américain, le Conseil de sécurité siégeait en session extraordinaire en l'absence du délégué soviétique. Dès le lendemain, le président Truman donnait l'ordre au général MacArthur de faire intervenir les forces navales et aériennes placées sous ses ordres pour appuyer la résistance des Coréens du Sud sur tout le territoire s'étendant jusqu'au 38e parallèle. L'attention du monde reste fixée sur la Corée.
Il y a donc 2 Corées, comme il y avait alors 2 Allemagnes. Celle du Nord, communiste, soutenue par 2 solides voisins, l'URSS et la Chine. Celle du Sud, capitaliste, portée par les États-Unis, puissamment installée à un peu plus de 200 km de là, au Japon. En Corée, la guerre froide devient guerre tout court. Le 25 juin 1950, en effet, après des tirs d'artillerie massifs, 135 000 soldats nord-coréens franchissent le 38e parallèle. Le jour même, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte la résolution 82 qui invite les autorités nord-coréennes à retirer leurs troupes. Sans effet sur Kim Il-sung, le grand dirigeant nord-coréen, enfin « grand dirigeant » avec des guillemets, car c'est lui qui se proclame ainsi. Au 3e jour de l'offensive, ses troupes envahissent Séoul. Le 7 juillet, l'ONU confie aux États-Unis le commandement d'une coalition de 21 pays. Le président français tergiverse pendant quelques semaines. La France manque déjà de soldats pour l'Indochine et doit faire face à ses obligations en Algérie ou en Allemagne. Et puis il y a l'opinion publique, les communistes notamment, un quart de l'électorat à l'époque. Le 26 juin, au lendemain de l'attaque nord-coréenne, l'Humanité titre à la une « Grave provocation à la guerre des fantoches de Washington ». Et il accuse « De graves événements viennent d'éclater en Corée qui projettent un jour cru sur les méthodes et les plans des fauteurs de guerre américains qui ont appris les provocations à l'école d'Hitler et de Mussolini et qui s'efforcent de se montrer dignes de leur maître ». Malgré tout, le 25 août 1950, le gouvernement Pleven crée le BF, le Bataillon français de Corée. Mais comment trouver 1000 hommes quand on peine déjà tellement à en recruter pour l'Indochine? Eh bien, contre toute attente, en faisant appel aux volontaires et aux réservistes, les rangs s'étoffent immédiatement. Souvenirs croisés des sergents Oswald et Breuil, du caporal Carrier et du soldat Dréano dans le documentaire « Corée, nos soldats oubliés ».
Donc beaucoup de gens sont venus par idéalisme, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des gens ruinés, il y avait un peu de tout. Tu devais des aventuriers tout simplement.
Des gens comme moi, c'est parce qu'ils s'ennuyaient dans leur caserne, ils en avaient marre. D'autres disaient, si je vais là-bas, j'aurai des grades. Puis il y avait des gars, c'était ça ou la tôle.
Il y avait des marlous là-dedans, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était pas la crème.
Il y avait des chagrins d'amour aussi. On s'engage, on va se faire tuer pour des choses aussi bêtes que ça.
1017 anciens légionnaires ou hommes d'affaires ruinés, ventre creux ou mari trompé, se retrouvent donc fin août 1950, tout près du Mans, au camp militaire d'Auvour, où les baraquements en bois s'effritent, ouverts à toutes les pluies, à tous les vents, écrit le journal intransigeant. À 10 000 km de là, les 38 000 soldats sud-coréens ont depuis longtemps plié face à la puissance de leur adversaire. Fin août, les forces communistes contrôlent 90% du pays. Seule une zone tient encore, au sud-est du pays. Ni le blocus naval de la péninsule coréenne, ni les bombardements aériens menés par les Américains ne semblent pouvoir faire basculer la guerre. Alors, que va faire le commandant en chef, le général MacArthur ?
Aujourd'hui, dans notre émission The Big Picture, l'histoire d'un homme qui détient l'une des carrières militaires les plus remarquables des temps modernes. Un grand commandant, un prestigieux chef d'état-major, un gouverneur militaire sans égal à son époque. Son parcours se décline en bien des étapes, longues et glorieuses. Par-dessus tout, sa carrière brille à la lumière de sa formidable intégrité personnelle. Douglas MacArthur.
MacArthur, c'est le vainqueur de la guerre du Pacifique. C'est lui qui a reçu en main propre la capitulation japonaise. Surnommé par les vaincus, le Gaijin Shogun, le généralissime étranger. Et il ne voit qu'un moyen pour repousser les Nord-Coréens, la force. Il choisit un port à une cinquantaine de kilomètres de Séoul, Incheon. Bon, l'endroit n'est pas idéal, forte marée et plage peu praticables, mais MacArthur a décidé. Le 15 septembre, un déluge d'obus déclenché par des navires américains assomme les Nord-Coréens avant l'assaut des marines. Jour après jour, semaine après semaine, les Américains repoussent les troupes de Kim Il-sung au-delà du 38e parallèle. Séoul est libéré. MacArthur hérite d'un nouveau surnom, le sorcier d'Incheon. Et fin septembre, la victoire change de camp, titre le journal Combat, quand l'Aurore, journal aujourd'hui disparu, y voit lui un tournant décisif dans la guerre de Corée et propose un article sur ces Américains spécialistes du débarquement. Dans l'éditorial, Robert Bonny écrit « L'affaire de Corée, après 2 mois et demi d'angoisse, vient d'entrer dans une nouvelle phase, la liquidation de l'agresseur. » Bref, tout devrait vite rentrer dans l'ordre. Mais les volontaires français s'inquiètent. Et si la guerre était finie avant même qu'ils n'arrivent en Corée? En cette fin septembre 1950, on parle en effet d'armistice. Alors, à quoi serviront ces nouveaux treillis qu'ils viennent de recevoir? Ces nouveaux bérets noirs? Cet insigne tricolore affichant les lettres ONU, encadré par un rameau d'olivier et un glaive? Sans promesse de combat et de baroud, le bataillon français embarque pourtant le 25 octobre.
Hanoï, le bataillon des volontaires français pour la Corée a défilé devant le général Monclar, son chef, avant de s'embarquer à destination de la Corée du Sud. Fidèle à ses engagements vis-à-vis de l'ONU et consciente de s'associer ainsi au rétablissement de la paix, la France, malgré les douloureux événements d'Indochine, a tenu à être présente en Corée.
Alors que les Français entament leur traversée vers l'Asie, les armées américaines, britanniques et sud-coréennes entrent dans Pyongyang, la capitale du Nord. Un bataillon américain atteint le fleuve Yalu, qui marque la frontière avec la Chine. Des soldats communistes se rendent par centaines et fuient par milliers. L'optimisme règne dans l'état-major du général MacArthur. Un optimisme que ne tempère pas vraiment quelques nouvelles pourtant désagréables. Les Nord-Coréens sont appuyés par des Mi-15 soviétiques qui surclassent les appareils alliés. Et puis il y a tous ces renseignements concordants sur la présence de troupes chinoises au sol, auxquels le général MacArthur ne croit pas. Ils se sont trompés, écrira des années plus tard un général sud-coréen. Parce que pour eux, Chinois et Coréens se ressemblaient et parlaient une langue similaire. Début novembre 1950, 5 mois après le déclenchement d'une guerre que les Alliés pensaient finissante, le réveil est brutal. 54 divisions chinoises, plus de 500 000 hommes franchissent le Yalu, le fleuve frontière. Les Alliés sont repoussés. Séoul est à nouveau sous contrôle de l'ennemi. Le président américain Harry Truman, comme Poutine aujourd'hui, évoque l'arme atomique. La Chine est donc entrée en guerre et le millier d'hommes du bataillon français s'apprête à le faire également. Après avoir débarqué, les Français sont conduits dans le centre du pays, au camp Walker. Il n'y reste que le temps nécessaire pour changer leurs tenues qui ont fait hurler de rire les soldats US contre un paquetage mieux adapté au combat et surtout à la rigueur du climat coréen où bien souvent il fait moins 30, écrit le journaliste Erwan Bergo. Pendant un mois, le bataillon français est baladé de village en village, jamais très loin des combats mais jamais au cœur. Et puis début janvier 1951, les militaires français sont déployés autour de la ville de Hong Hu. C'est la première bataille à laquelle participe Claude Massicard, jeune soldat de 21 ans à l'époque. Désormais vieux monsieur de 93 ans, il se souvient de la première balle tirée. Il venait d'entendre un bruit dans la nuit, juste devant lui.
Quand vous me rampez comme ça, à travers un terrain neigeux et boisé, donc vous ne pouvez pas ne pas déranger, ne pas casser des brindilles et tout ça. Donc c'est le bruit qui m'a alerté. Donc ça consistait pour moi d'appuyer sur la détente pour tirer un coup de feu. C'est l'instant.
Ils sont à quelle distance les Chinois quand vous déclenchez
Je sais pas, quelques dizaines de mètres. Et j'avais un camarade qui n'a pas eu de chance. Hein. Là, il a reçu l'obus carrément sur la tête. Eh bien, je vous garantis, ça fait un sacré choc. Quand vous voyez un gars avec qui vous étiez en train de parler, 5-10 minutes ou un quart d'heure avant, et qui n'est plus qu'une bouillie. Une bouillie sanguinolente.
Les communistes sont lancés à l'assaut, écrit Erwan Bergo. Vague immense qui pousse des cris incompréhensibles. Ils courent, galopent, atteignent la base de la colline qu'ils commencent à gravir, sans se soucier des torpilles mortiers qui dressent devant eux un rideau d'acier et de feu. 5 fois, ils montent au contact des Français. 5 fois, ils sont repoussés. La Corée, c'est 14-18. Vous vous aplatissez sur le sol gelé quand l'artillerie vous assomme et vous vous relevez, baïonnette au canon, pour gagner quelques mètres ou pour ne pas en perdre. Vous tirez vers vous le cadavre d'un ennemi pour vous abriter derrière, en espérant que ce rempart vous protège suffisamment. Et puis le bataillon reçoit l'ordre de décrocher. Alors on abandonne le piton que l'on tenait. Et le lendemain, l'état-major vous ordonne de le reprendre. Ordre, contre-ordre, désordre, soupirent les militaires. Et puis, dans la deuxième quinzaine de janvier, le terrain s'est comme vidé. Les Chinois ont disparu. Ils se sont retirés. Le bataillon français compte ses morts, 27. Ses blessés, 97. Et ses disparus, 3. Il a perdu 10% de ses effectifs en 15 jours. Et il a gagné une citation présidentielle américaine. Chez les GIs, l'attaque à la baïonnette des Français vire à la geste chevaleresque. Puis il y a la bataille de Chipong Ni en février. Et c'est la routine horrible de la guerre. comme l'écrivent dans leurs livres Pierre Ferrari et Jacques Vernet, la nuit est un enfer de feu et de corps à corps. Le jour se lève sur des rizières gelées couvertes de cadavres et sur des pans enneigés martelés des traces ennemies. La fin d'hiver et le printemps 1951 se passent ainsi, au rythme des combats, des positions que l'on quitte, des villes et villages que l'on prend, des médailles et des citations que l'on reçoit. Mais à quel prix ? Le 4 mars, l'état-major américain envoie 414 Français prendre la côte 1037, un piton rocheux fortifié par les Chinois. Le lendemain, après un assaut de 5 heures, les Français se comptent. Entre les morts et les blessés, un tiers des hommes manquent à l'appel. Les survivants mettent une nuit et un jour à récupérer et évacuer leurs morts, leurs blessés, l'armement et les munitions pour ne rien laisser à l'ennemi. Alors, les Américains saluent l'héroïsme, les Français, eux, voient toute la vacuité de ce fait d'armes. Car la prise de la côte 1037 n'avait aucun intérêt. Dans les rangs du bataillon français, le moral est en berne, se souvient le colonel Louis-Christian Michelet.
Il y a quelque chose qui m'est resté comme très pénible. On ne fait pas n'importe quoi à n'importe quel prix à la guerre. Quand il s'agit de se défendre jusqu'à la mort inclusivement parce qu'on a juré de s'ensevelir sous les ruines du fort, très bien. Mais là, en pleine campagne, pour s'emparer d'un piton dont l'utilité peut être discutée et aura peut-être disparu dans les 48 heures qui suivront, bon, le bataillon en est sorti profondément meurtri. Les officiers aigris, furax contre les Américains, il y a même eu une espèce de fièvre anti-américaine, une poussée d'anti-américanisme primaire.
Les soldats français sont rincés, essorés. Ils se battent et se déplacent depuis 6 mois de façon incessante, progressant au-delà du 38e parallèle. Fin mai, c'est enfin le temps du repos et des bilans. Sur les 1017 soldats arrivés 6 mois plus tôt en Corée, il n'en reste qu'une moitié opérationnelle. Le 8 juin, pour reconstituer le bataillon, le chef du détachement français, le général Monclar, fait une nouvelle fois appel aux volontaires à la radiodiffusion française.
Jeunes gens, réservistes, anciens de la 2e DB, français libres, parachutistes, vous la connaissez, vous l'avez éprouvée, cette peine qui consiste à lutter dans un pays lointain et hostile. Peine glorieuse, mais grande peine tout de même. Soyez des 1000 Français des Nations Unies. Une autre communication vous dira les voyages que vous entreprendrez, les primes, les soldes qui deviendront les vôtres. Toutefois, nous pensons que le voyage répond à votre curiosité naturelle de l'aventure du vaste monde. Les primes, les soldes, c'est pour indemniser la séparation, les fatigues exceptionnelles. Mais le prix d'où nous entendons payer votre sang, c'est toute l'espérance du monde.
Quelques semaines après cet appel au renfort, les deux camps entament des pourparlers et la paix est espérée. Mais aucun compromis n'est jugé acceptable, ni par l'un ni par l'autre des belligérants. Alors, les diplomates se taisent et les canons reparlent.
Pourquoi donc irais-je encore à la guerre ? Après ce que j'ai vu avec ce que je sais, où sont-ils à présent les héros de naguère ? Ils sont allés trop loin chercher la vérité. Quel que soit le printemps, les cigognes reviennent. Tant de fois le cœur gros, je les ai vus passer. Elles berçaient pour moi des rêveries anciennes, illusions d'un enfant dont il n'est rien resté. Toutes les fleurs sont mortes au fusil de nos pères. Bleuets, coquelicots d'un jardin dévasté. J'ai compris maintenant ce qu'il me reste à faire. Ne comptez pas sur moi si vous recommencez. Tout ce que l'on apprend dans le regard des femmes, ni le feu, ni le fer, n'y pourront jamais rien. Car l'amour et lui seul survit parmi les flammes. Je ferai ce qu'il faut pour défendre le mien. Pourquoi donc irais-je offrir ma jeunesse, alors que le bonheur est peut-être à deux pas? Je suis là pour t'aimer, je veux t'aimer sans cesse, afin que le soleil se lève sur nos pas.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui les soldats oubliés de la guerre de Corée.
Affaires Sensibles.
À l'attaque ! À l'attaque !
Sur France Inter.
Il faut bien dire que ce petit bataillon français, n'est-ce pas, que j'ai accompagné depuis le début, s'est conduit de façon absolument extraordinaire.
Dites-moi, Paul Mousset, l'histoire du bataillon français, c'est bien le sujet du bouquin que vous êtes en train d'écrire.
Ah oui, vous avez raison, parce que je les prends à Marseille et je les mène jusqu'à leur dernier combat.
Raison de plus pour nous en parler.
Ils se sont conduits de façon tout à fait étonnante. Dans la défensive, ils ont prouvé une tenue qui a fait l'admiration de tout le monde. Il y a eu ces fameuses charges à la baïonnette et toutes ces histoires dont vous avez entendu parler, de Lesnel et de Le Beurrier. Mais dans l'offensive, notamment le 6 mars à la côte 1037, ils ont accompli un exploit qui peut s'apparenter à la prise de Constantine.
À entendre cette émission de radio du 30 mai 1951, on pourrait croire qu'à lui seul, le bataillon français a changé le cours de l'histoire. Bien sûr, il y a l'effet d'armes, indubitable. Mais la guerre de Corée s'enlise. En France, cet été 51 est marqué par la démission du gouvernement d'Henri Cueil et par la mort en détention du maréchal Pétain. En Corée, le général Widway a pris le commandement de l'opération alliée. Le général MacArthur, l'ex-héros d'Incheon, a été limogé. Le bataillon français reprend des forces et se voit assigner une position sur une ligne de front qui ne bouge guère. Au fil des mois, le quotidien Paris Presse l'intransigeant titre « Combat confus » ou encore « URSS, 30 à 50 bombes atomiques, USA 1500 » ou encore « Corée, nouvel assaut des alliés » ou bien « Premier pas sérieux vers l'armistice ». Un peu tout et son contraire. En vérité, et comme le note le militaire et historien Yvan Cadeau sous le titre « L'impasse », de 1951 à 1953, les deux camps se livrent à une guerre de position, faite de coups de main, de patrouilles et d'attaques aux objectifs limités, tout en poursuivant des pourparlers de paix sans cesse remis en cause. À l'automne 51, le bataillon français est à nouveau engagé dans un combat violent pour un massif montagneux dénommé Crève-Cœur, où l'ennemi est retranché, fortifié. Les bunkers se passent de béton, introuvables, mais résistent grâce à l'accumulation de couches de rondins et de la terre sur 2 mètres d'épaisseur. Et il faut un mois, 60 morts et 260 blessés pour déloger les Chinois de leur position. Le colonel Michelet se souvient.
Les Chinois étaient la seule infanterie du monde capable de progresser à flanc de coteau et, rencontrant une résistance, de donner un premier assaut en moins d'une demi-heure. En montagne. Personne d'autre n'a jamais vu ça ailleurs. Autre indication, j'ai interrogé pas mal d'officiers américains chevronnés et je leur ai posé la question suivante. Lesquels sont les plus durs, tough? Les Chinois ou les Japonais? Oh, mon Dieu, les Chinois, sans aucun doute.
Comment tient-on debout quand l'air qui vous entoure sent le napalm et la poudre? Quand tout autour de vous sifflent les obus, les roquettes, les balles? Comment tient-on quand on est trempé par des pluies diluviennes ou quand la proximité de l'ennemi vous interdit de faire du feu par moins 30 degrés? Sans oublier les cris, ceux de l'adversaire qui monte vers vous ou ceux des blessés qui vous supplient de venir les sauver ou les achever. Comment tient-on quand, littéralement, on passe des jours et des jours et des nuits au-dessus de cadavres? Eh bien, on s'habitue, se souvient Serge Archambault, 94 ans aujourd'hui, 32 à l'époque.
Vous pouvez pas foutre un coup de pioche, vous tombez sur un macabé.
Alors, moi j'ai creusé, encore un macabé, boum, je remettais la terre. Je creusais, encore un macabé, je remettais la terre. À la fin, je suis tombé sur 3 macabés chinois, mais sur les jambes. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai creusé, j'ai laissé les jambes dépasser, j'ai pris ma pelle, j'ai cassé les jambes, j'ai pris le poignard, j'ai coupé les nerfs, j'ai jeté les jambes, j'ai mis des cartons, je suis resté 15 jours. 15 jours avec 3 macabés à vivre avec eux. Et sans compter les macabés qui étaient à côté, que ça peut. Hein.
La ligne de front est située juste au nord du 38e parallèle, l'actuelle frontière entre les deux Corées. Les photos et films qui nous sont parvenus évoquent instantanément la Première Guerre mondiale. Oui, les tranchées boueuses, les cratères formés par les obus, les arbres déchiquetés, tordus par le souffle des explosions. Pour les Français, la Corée ressemble vraiment à Verdun. Le confort américain en plus, glisse un ancien. Oui, le confort américain, c'est avoir du barbelé et des planches quand on en demande. C'est d'être équipé de parkas, de chaussettes et de chaussures US, tellement plus chaudes et résistantes que l'équipement français. Seul reproche, les rations américaines ne prévoient pas de vin. Les seules boissons autorisées sont l'eau, les jus de fruits et le café. Évidemment, au bataillon, certains se débrouillent et s'approvisionnent en mauvais vin ou cognac de contrebande. Et puis il y a des distractions servies sur un plateau par l'armée US. Frank Sinatra vient chanter, Marilyn Monroe vient se montrer. À l'arrière, les villes coréennes, dont Séoul, ressemblent aux villes françaises détruites 40 ans auparavant. Au carrefour se dressent des façades fantomatiques. On ne croise plus d'hommes dans les rues, ils sont partis au front. Alors les femmes font la police, des orphelins volent de quoi manger. Les campagnes ont moins souffert, comme si la guerre y était passée sans s'attarder. Ce conflit, comme tous les autres, crée sa propre routine. Fracas des armes, cris des hommes qui s'écroulent, puis relève et repos, puis retour au front. Et parfois, il y a la permission, une parenthèse, à Tokyo en l'occurrence, dont se souvient le sergent Michel Oswald dans le documentaire Corée de soldats oubliés.
2h30 avant, on était au combat, avec les Chinois en face. Et on se retrouve, habillés, machin, des âges de rechange, incroyable. On est fous. Déjà, à l'époque, à Tokyo, il y a des néons partout. On est fous. On a tous notre adresse. Nous, on était allés au Tokyo Central Hotel. J'ai encore la carte de visite. Mais, le cinquième jour, le cheminement inverse se fait. Et 2h30 après, on se retrouve dans la tranchée avec son fusil. À croire qu'on a rêvé. Vous pouvez pas imaginer. Quand vous avez vécu 8 mois à ne voir que du militaire, des coups de fusil, des machins, des trucs, pas un civil, rien, pas un train, rien. Et que vous vous retrouvez à Tokyo comme ça pour 5 jours, et que vous revenez après, pendant 2 jours, on a du mal à former.
En Europe, comme en Amérique, l'opinion publique se lasse de cette guerre lointaine. Et en Corée, tout paraît figé par la glace ou enlisé dans la boue. Chaque camp cherche avant tout à contenir l'autre, à l'empêcher d'avancer. C'est une guerre de position où le terrain ne se dévore plus mais se grignote. Encore une référence à la Première Guerre mondiale, alors que l'aviation américaine revient à sa doctrine du tapis de bombes et fait de Pyongyang une ville où plus rien ne tient debout. À l'automne 52, les Chinois lancent une nouvelle offensive pour tenter d'enlever les côtes 281 Arrowhead et 395 Whitehorse. Ces deux positions empêchent les Nord-Coréens et les Chinois de se déployer dans la vallée qui mène à Séoul. Whitehorse est tenu par les Sud-Coréens et les Américains, Arrowhead par le bataillon français. Et c'est l'enfer dont nous parlions au début de ce récit. Le 8 octobre, l'envoyé spécial de l'Aurore en Corée, Warren Franklin, écrit « S'imagine-t-on ce que représente, en fait de puissance de feu, une cadence de tir d'un obus à la seconde ?» Dans son livre « Bataillon de Corée », Erwan Bego raconte
« Les Chinois sont à moins de 50 mètres. » Ils se sont glissés silencieux, accompagnant au plus près leur propre obus. Il est 6 heures exactement. Les mitrailleuses se sont mises en action, crachant sans répit, taillant des sillons sanglants dans la masse toujours renouvelée. Sur les deux pitons tenus par les pionniers, la confusion est à son comble. Amis et ennemis se mélangent dans un furieux corps à corps. Au combat, il y a toujours un moment où, faute d'avoir pu stopper l'ennemi, il faut sortir à l'air libre et l'affronter. poitrine contre poitrine. Alors les pionniers quittent leur blocos, ils se présentent l'arme au poing face aux Chinois qui, eux non plus, ne font pas de quartier. On se bat au plus près. Des corps tombent et roulent dans le ravin abrupt.
Arwen, les munitions manquent, alors Français et Chinois se battent à coups de pierre, de pelles et de poings, jusqu'à l'absurde. Une nouvelle fois, le bataillon français est félicité. Une nouvelle fois, on lui décerne médailles et citations. Mais une nouvelle fois, il sort du combat exsangue et ravagé. Arwen est la dernière bataille du contingent français, et toute la Corée retombe dans le statu quo d'avant la guerre. Chacun revient à sa position initiale. Les Rouges, comme dit alors la presse, au nord du 38e parallèle, et les Alliés au sud, tout ça pour ça. Pour autant, tout ne reste pas immobile. Yvan Cadot écrit ainsi dans son livre « Si la situation militaire n'enregistre aucun changement, la situation politique, en revanche, évolue aux États-Unis. » En janvier 1953, en effet, un nouveau président américain prête serment. Exit Truman, c'est le républicain et ancien militaire Dwight Eisenhower qui lui succède à la Maison-Blanche. Celui qui a planifié le débarquement en Normandie 10 ans plus tôt a promis à celles et ceux qui l'ont élu la fin de la guerre en Corée. 100 000 Américains ont été tués, blessés, sont prisonniers ou portés disparus. Nous ne pouvons pas rester sur un front statique et accepter des pertes sans résultat notable, dit-il quand il se rend sur le front. Avant d'ajouter, des petites attaques sur des petites collines ne mettront pas fin à la guerre. Comme son prédécesseur, le nouveau président évoque l'arme atomique. Mais ce n'est pas une menace qui va mettre fin à la guerre, non. C'est une disparition.
Celui qu'un peuple de 200 millions d'habitants acclamait tous les ans sur la place rouge, Joseph Staline, est mort. Le chef du plus vaste empire du monde a succombé à 73 ans à une hémorragie cérébrale. Depuis 1924, il avait pris la succession de Lénine et assumé à la fois la conduite du peuple russe et celle du régime soviétique. Qu'adviendra-t-il demain dans ce monde qu'il abandonne ? Divinisé par ses fidèles, honni par ses adversaires, on peut dire que Staline, l'homme d'acier, fut un extraordinaire bâtisseur. La force soviétique créée par lui est l'un des pôles du monde d'aujourd'hui. Qu'en feront ses successeurs ?
Le 5 mars 1953, un monde soviétique s'éteint, un autre naît. Dans cette nouvelle URSS, où Khrouchtchev révise le bilan de Staline, le soutien à la Chine qui appuie la Corée du Nord est moins évident. L'alliance, jusque-là, tenait essentiellement à la détestation d'un même ennemi, l'Américain. Mais la mort de Staline change tout. Des échanges de prisonniers apportent les premiers signes officiels d'apaisement et des pourparlers de paix reprennent. D'ailleurs, ils aboutissent le 27 juillet 1953. La guerre de Corée a duré 3 ans et fait des centaines de milliers de morts. Et le bataillon français dans tout ça? Au gré des relèves et des renforts, 3400 soldats se sont battus dans cette guerre lointaine. 1 sur 3 est revenu blessé, 1 sur 10 y est resté. Le bataillon a reçu 4 citations à l'ordre de l'armée française, 3 citations présidentielles américaines, 2 coréennes et près de 2000 à titre individuel. Mais au-delà des honneurs et des souvenirs glorieux, que reste-t-il de la guerre de Corée? La dynastie des Kim est aujourd'hui toujours au pouvoir, comme avant. La frontière entre le nord et le sud est la même qu'avant. Elle n'a modifié aucun équilibre mondial. Non, elle a juste été le terrain d'affrontement de 2 blocs idéologiques et le cimetière, tout camp confondu, de plus de 2 millions d'humains.
En réalité, un assaut n'est terrible que durant l'attente. Après, quand tout est fini, si vous n'êtes ni blessé ni mort, vous vous apercevez que vous ne vous souvenez de rien, ou presque. Quelques bribes, une image captée au vol. Le reste, c'est flou. Du brouillard. Et c'est sans doute mieux ainsi. On n'aime pas se souvenir d'avoir tué des hommes.
Aujourd'hui, les Français dans la guerre de Corée. Notre invité, le lieutenant-colonel Yvan Cadot. Bonjour.
Bonjour.
cité plusieurs fois dans le récit. Vous êtes docteur en histoire contemporaine, officier au service historique de la défense, le SHD, que nous remercions pour la mise à disposition d'archives inédites que vous avez entendues. Et vous êtes, vous, l'auteur de « Guerre de Corée » paru en 2016 chez Perrin. Géopolitiquement, peut-on dire que cette guerre est un événement paroxystique de la guerre froide ?
On peut le dire, parce que c'est le cas. Effectivement, la guerre froide, elle commence au lendemain immédiat de la Seconde Guerre mondiale. On a déjà des conflits proches de nous. On peut se souvenir, par exemple, de la guerre civile en Grèce, déjà, qui est une manifestation de cette opposition entre les deux blocs. Mais la guerre de Corée, elle constitue un événement à part, d'abord par le volume des forces engagées. C'est la seule fois dans la guerre froide où il y a des centaines de milliers d'hommes qui combattent face à face. C'est aussi la seule fois où les combattants des deux blocs s'affrontent directement, que ça soit sur Terre, où on a une confrontation directe entre les combattants chinois et leurs homologues américains, dans les airs. Parce qu'effectivement, on a des pilotes américains qui combattent des pilotes soviétiques. Même si, effectivement, ils n'ont aucun papier pour le prouver, on a bien des Nord-Coréens blonds aux yeux clairs qui pilotent des MiG. Et puis, c'est aussi la seule fois de la guerre froide où, vous le rappeliez, eh bien, il y a cette menace nucléaire qui va planer. Alors, peut-être pas durant tout le conflit, à deux épisodes bien distincts. Tout d'abord, à la fin de l'année 50, où Truman laisse penser eh bien, que les Américains pourraient utiliser cette arme. On le sait maintenant, à l'époque, c'est du bluff. Par contre, ce que l'on sait moins, c'est que cette menace d'utilisation de l'arme nucléaire, elle intervient à peu près au même moment que la mort de Staline, et c'est un événement, là aussi, eh bien, qui va peser sur la fin de la guerre de Corée. C'est-à-dire cette pression américaine pour en terminer.
Alors, on l'a dit dans le récit, les Américains ont trouvé les Français héroïques, dignes de confiance. Quelle était, avant les premiers combats, l'attitude des Américains envers les Français ? Je veux dire, est-ce qu'ils ont révisé leur jugement à la lumière de ce que les Français ont réalisé sur le terrain ?
Alors, c'est exact. Les témoignages des anciens, dont certains que l'on peut entendre dans les témoignages du service historique de la défense,
dont Archambault, dont
Oswald, le colonel Michel Oswald, qui est toujours parmi nous, eh bien, lorsqu'ils arrivent en Corée, tous ces gens-là, d'abord représentent une force assez minime. En 1951, le bataillon français de Corée, c'est 0,3% de l'ensemble de toutes les forces onusiennes.
Oui, 1017 personnes, c'est pas
1017 personnes, énorme. C'est un bataillon, c'est effectivement assez faible en effectif. Les Américains n'en ont pas besoin d'un point de vue militaire. Et puis surtout, quand bien même la France a participé militairement à partir de 1943, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les soldats français souffrent toujours du syndrome de 40. Ils sont vus comme des vaincus et comme de bien piètres combattants. Et c'est justement pour faire mentir ces représentations que les officiers français et l'ensemble de la troupe vont avoir à cœur, justement, eh bien, de remplir les missions, peut-être au-delà même de ce qui est parfois demandé. Et effectivement, très rapidement, les Américains vont réviser leur jugement sur la valeur combative de ces hommes qui... On l'entend aussi dans le documentaire, que ce soit dans l'offensive ou dans la défensive, tiennent leur position. Et en fait, les Américains savent très bien, à partir de février 1951, que l'on peut compter sur ce bataillon français.
Et l'opinion publique française, qu'est-ce qu'elle dit de cet engagement ?
Alors l'opinion publique française, eh bien, elle est intéressée par la guerre de Corée au mois de juin 1950, quand elle éclate. Évidemment, ça l'a fait la une des journaux. Elle s'y intéresse aussi au moment de l'intervention des Chinois, à la fin du mois de novembre 1950, et puis la menace nucléaire qui plane est une réalité à l'époque. Mais en dehors de ça, l'opinion française à l'époque, eh bien, elle a d'autres préoccupations. Elle a son quotidien, on est quand même 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Il y a encore des restrictions, l'économie
est difficile. Il y a des restrictions, il faut effectivement remettre l'économie en œuvre, il faut... Eh bien, tout simplement aussi reconstruire les ruines. Et déjà que l'opinion française s'intéresse peu, voire pas du tout, à la guerre d'Indochine, alors ces quelques milliers de combattants au total qui combattent entre 1950 et 53 en Corée, eh bien, l'opinion française n'y fait pas attention. Et surtout, l'opinion française, on le sait, est sensible lorsque ce sont des appelés ou des conscrits à l'époque qui vont au feu et qui sont mobilisés. Là, vous le rappeliez, ce sont des volontaires. soit des réservistes, soit des soldats d'active.
On est bien d'accord, uniquement des volontaires.
Non, alors ce sont des volontaires dans la première phase de la guerre, mais vous le rappeliez aussi, il y a une crise de la guerre froide, une crise du recrutement, il y a un appel de Montclar, mais en fait, le nombre de réservistes ne sera pas suffisant,
Parce qu'il y a l'Indochine, après il y a l'Algérie...
Et puis aussi, la France doit faire face à ses obligations en Allemagne, les troupes d'occupation en Allemagne. Donc, on a une vraie crise endémique des effectifs dans l'armée française à l'époque. Et donc, pas assez de réservistes. L'armée attire peu aussi à ce moment-là, il faut le rappeler. Et donc, des soldats d'actifs vont être désignés. Et certains qui croyaient aller en Indochine ou en Allemagne, eh bien, se retrouvent en Corée. Où personne n'avait anticipé les conditions du combat.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Lieutenant-colonel Yvan Cadou, nous avons brièvement dans le récit évoqué le général Montclar, on vient d'en reparler. Qui est cet officier qu'on voit un peu partout dans la presse de l'époque ?
Eh bien, dans ce premier XXe siècle, entre 1914 et 1950, Montclar est une figure de l'armée française. C'est un héros, comme l'on dit, multiples fois cité, une vingtaine de fois cité au feu, 7 fois blessé pendant la Grande Guerre, dont 2 fois trépané. Il a été aussi l'homme de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère lors de la campagne de Norvège en 1940, très tôt rallié au général de Gaulle, compagnon de la Libération. Bref, on a une figure d'officier général, de guerrier aussi.
Oui, trois guerres à lui tout seul à l'époque.
Trois guerres à lui tout seul. Et donc en 1950, pour donner un petit peu de relief à cette participation française, on va décider de mettre à la tête, non pas du bataillon, mais d'un état-major, une structure en fait accolée au bataillon, on va mettre à sa tête un chef prestigieux connu des alliés. Parce que l'on sait que 1000 hommes, finalement, c'est relativement peu, comme un grand pays comme la France, vainqueur in extremis de la Seconde Guerre mondiale, membre permanent du Conseil de sécurité. Et donc, il faut que la France, elle ait un statut particulier au sein des 16 nations combattantes sur les 21 qui vont être engagées en Corée. Et on place donc un général de corps d'armée qui va accepter voire de troquer ses étoiles contre les 5 ficelles panachées de lieutenant-colonel. Ce n'est pas le seul. Un général du détachement turc fera de même.
Bah vous portez, vous, sur les épaules les 5 bandes panachées de lieutenant-colonel. Hein.
Mais je n'ai pas la carrière de Montclar.
Dans les articles parus plus tôt sur la fin de la guerre, on voit émerger le sujet des prisonniers de guerre, et particulièrement de ce qui se passait dans les camps américains de prisonniers nord-coréens. Que se passait-il ?
Le problème des prisonniers, il est central dans la guerre de Corée. Dès 1951, on estime finalement que la guerre de Corée aurait pu se terminer puisque les belligérants avaient trouvé un accord sur la ligne du 38e parallèle et donc on aurait pu terminer par un patte, comme on dit, aux échecs. Seulement, les Américains ont décidé, effectivement, de placer la question des prisonniers d'un point de vue moral. Et donc, la Convention de Genève, signée en août 1949, qui stipulait finalement qu'à la fin d'un conflit, eh bien, il y avait un retour des prisonniers dans leur pays d'origine. Finalement, les Américains veulent faire évoluer ce droit et laisser le choix des prisonniers de retourner dans leur pays ou pas. Et on voit bien, évidemment, que nombre de Chinois ou de Nord-Coréens, eh bien, auraient accepté de rester en Corée du Sud. Ça aurait été un désaveu, évidemment, pour le camp communiste. Et donc, à partir de 1952... Alors, arguant des mauvais traitements des gardes américains et sud-coréens dans les camps de prisonniers sino-coréens, eh bien, ceux-ci vont déclencher une véritable guerre psychologique. Le but est de fomenter des révoltes dans les camps de prisonniers. On fait même venir, en fait, des spécialistes nord-coréens qui se font prisonniers ou qui infiltrent les camps. Le but est tout simplement, eh bien, de créer des révoltes et que celle-ci débouche sur une répression pour que l'on parle, évidemment, sur la scène internationale, du sort réservé à ces, entre guillemets, pauvres prisonniers, bien maltraités par les occidentaux, là aussi, entre guillemets.
Autre sujet sensible, l'emploi d'armes bactériologiques, réelles ou supposées, par les Américains. Que sait-on de cela ? Sait-on si c'est vrai ?
Alors, les deux camps se battent avec les moyens dont ils disposent. Et pendant toute cette phase de guerre statique, les Américains bombardent avec leur puissance aérienne, tandis que du côté sino-coréen, on fait donc de la guerre psychologique, on a vu l'illustration avec les prisonniers, et puis aussi on va attaquer dans un autre domaine avec des accusations de guerre bactériologique qui vont être poussées à l'extrême. Alors elles sont destinées évidemment au camp communiste en interne, hein, mais également surtout pour les opinions occidentales, puisque ces accusations vont être relayées, alors dans les différents partis communistes qui peuvent exister à l'Ouest, mais chez tous les compagnons de route. Elles sont poussées à l'extrême. C'est-à-dire qu'on a des enquêtes sur le terrain, on a à l'été 1952, à Pékin, vous avez une grosse exposition sur les guerres bactériologiques, alors avec effectivement des insectes, avec des poupées, avec des tubes de dentifrice, qui auraient été infectés par la variole, la peste, le choléra, et j'en passe, par les Américains. On sait actuellement que c'est faux, il n'y a jamais eu de guerre bactériologique pour les Américains, ils n'en avaient pas besoin, mais ce qui a créé l'ambiguïté, c'est qu'à l'époque, dans les années 50, les Américains travaillent, comme les autres nations, sur ces nouvelles armes, et que surtout, ils n'ont jamais signé de protocole leur interdisant de les utiliser, le cas échéant.
D'une guerre à l'autre, donc 70 ans plus tard, aujourd'hui, que nous apprend le conflit Russie-Ukraine sur ce qu'est la guerre contemporaine ?
La guerre contemporaine, ou de haute intensité, comme on dit maintenant, effectivement, ce sont d'abord des masses d'hommes, il y a cette notion de masse dans la guerre de haute intensité, et puis, on le voit avec le bataillon français de Corée, ce sont aussi des pertes, et la question des pertes, elle est centrale, à savoir comment accepter des pertes et comment la population française peut aussi accepter des taux de pertes. Voilà, c'est toutes ces questions-là aussi que nous renvoient les événements qui se passent dans l'Est de l'Europe actuellement.
L'armée française est une armée de métier depuis un certain temps, depuis l'abolition du service militaire par Jacques Chirac. C'est une armée de pointe, c'est une armée de haute technologie. Comment elle se situe dans le paysage armé occidental aujourd'hui ?
Alors c'est difficile de répondre et je ne suis pas un expert, quand bien même j'ai plus de 20 ans dans l'institution, mais ce qui est sûr que c'est une armée de qualité, technologiquement, elle a montré dans les différentes opérations extérieures auxquelles elle a pu prendre part depuis les années 60 qu'elle était en pointe, c'est une des rares armées qui peut projeter des forces à distance. On le voit par exemple tous les ans maintenant avec l'exercice Pégase effectué par l'armée de l'air. C'est-à-dire que c'est une des seules armées en Europe, voire même la seule, à pouvoir projeter jusque dans le Pacifique des rafales, accompagnées par des ravitailleurs. Donc c'est une armée effectivement en pointe.
Et alors, une succession de conflits depuis l'apparition de la bombe atomique militaire montre qu'on l'a utilisée qu'une fois, Truman sur Hiroshima et Nagasaki, et qu'on aurait pu l'utiliser plusieurs fois jusqu'à aujourd'hui. Poutine a bien sûr brandi la menace de l'arme atomique. Alors on a dit, est-ce qu'il bluffe ? Il a dit non, je ne bluffe pas. Mais bon, est-ce que vous pensez que l'existence de l'arme atomique permet précisément de ne jamais s'en servir ?
C'était le but.
C'était le but de la dissuasion.
Et c'était le but de la doctrine française. Parce qu'effectivement, personne, et je l'espère, ne recommencera ce qui s'est passé au mois d'août 1945.
Revenons, et pour finir sur la guerre de Corée, elle est relativement oubliée. Je dis relativement oubliée, parce que tout de même, tout le monde ne l'a pas oubliée, la preuve, aujourd'hui, dans Affaires Sensibles. Pourquoi elle n'a-t-elle pas laissé une trace importante dans notre histoire, dans nos préoccupations historiques ?
Alors, dans nos préoccupations, dans nos préoccupations françaises, mais également peut-être américaines, parce qu'elle est appelée la guerre oubliée, The Forgotten War. Alors, pour les Américains, ça s'explique aisément. Elle est coincée chronologiquement entre la victoire de la Seconde Guerre mondiale et puis le traumatisme du Vietnam. Et c'est étonnant quand même, parce que vous avez quand même 5 millions de soldats américains qui vont être engagés, peu ou prou, alors à terre, dans les airs ou sur mer, entre 50 et 53. Et du point de vue français, on le voit, le faible contingent finalement explique aussi un peu le désintérêt pour une zone d'influence qui n'a jamais été celle de la France. Avant la guerre de Corée, on a une petite expédition française au milieu du 19e siècle, et puis les choses s'arrêtent là. Mais j'en profite d'être à l'antenne pour rendre justement hommage à des gens qui honorent la mémoire de ce bataillon. C'est l'Association française du bataillon de l'ONU et son président Patrick Baudouin et secrétaire général Roger Quintard qui inlassablement, participent encore à l'écriture de cette mémoire du bataillon.
Bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, lieutenant-colonel Yvan Cadeau. Merci.
Merci à vous.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les Français dans la guerre de Corée, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Laurent Baudouin.